Bonjour et bienvenue, 15h TU, 16h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, les enquêtes sur l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre 2023. L'agence israélienne de la sécurité intérieure reconnaît avoir échoué dans son rôle en s'avérant incapable d'empêcher cette attaque. Elle n'épargne pas toutefois les responsables politiques à suivre dès le début du journal. Aux États-Unis, un discours fleuve au congrès de Donald Trump. 1h40 devant les élus républicains exaltés et les démocrates consternés du jamais vu. Sur l'Ukraine, le président est catégorique. Volodymyr Zelensky lui a donné l'assurance qu'il est prêt à négocier en vue d'une paix durable avec la Russie. L'Ukraine et le projet de défense européenne au cœur d'un sommet de l'Union européenne demain à Bruxelles et ce soir d'une allocution d'Emmanuel Macron. Le débat se poursuit en Israël sur les failles qui ont permis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Après l'armée, il y a quelques jours, c'est donc au tour de l'Agence de sécurité intérieure, les services de renseignement, de rendre public son rapport. Le Shin Bet reconnaît avoir échoué dans son rôle. Il pointe aussi directement la responsabilité des autorités politiques du pays. Les précisions sur place d'Oriane Verdier.
C'est la première fois que la responsabilité de Benjamin Netanyahou est citée aussi directement par un rapport d'enquête officiel. Le chef du Shin Bet, Ronan Bar, a tout d'abord reconnu que si ses équipes avaient agi différemment dans les années et la nuit précédant le 7 octobre, le massacre aurait pu être évité. Mais le rapport dénonce également une politique du silence côté israélien qui aurait sciemment laissé le Qatar financer l'aile militaire du Hamas. Le Shin Bet dit s'être opposé à plusieurs reprises à la politique de Benjamin Netanyahou consistant à diviser pour mieux régner, c'est-à-dire à encourager la division entre le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée. En février 2023, le Shin Bet a également averti que les provocations israéliennes sur le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées où l'interdiction des prières juives est fréquemment bafouée et le durcissement des conditions de détention des prisonniers palestiniens qui ont commencé sous le gouvernement actuel de Netanyahou pourraient inciter le Hamas à lancer une opération. Tout comme l'armée, l'agence israélienne de sécurité intérieure affirme dans son rapport que seule une commission d'enquête d'État pourra permettre de connaître toute la vérité. Le gouvernement israélien repousse cette idée depuis des mois. Oriane Verdier, Jérusalem, RFI.
Alors que des menaces planent sur la trêve en vigueur dans la bande de Gaza, le nouveau chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, déclare que la mission de l'armée israélienne contre le Hamas n'est pas terminée. Après les échanges verbaux virulents des derniers jours, le ton est plutôt à l'apaisement entre dirigeants américains et ukrainiens. Donald Trump affirme avoir reçu l'assurance de Volodymyr Zelensky qu'il est prêt à négocier en vue d'une paix durable avec la Russie. Le président ukrainien, qui a beaucoup échangé ces derniers jours avec ses alliés européens, a selon Washington fait amende honorable. C'est dans ce contexte que Viktor Orban est reçu aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron doit tenter de convaincre le Premier ministre hongrois, le plus pro-russe des Européens, de ne pas saboter le sommet extraordinaire de l'Union européenne demain à Bruxelles, sommet lors duquel le projet de réarmer l'Europe, projet d'un montant de 800 milliards d'euros, sera débattu. Florence Labruyère.
Depuis l'entrée en fonction de son ami Donald Trump, Viktor Orban applaudit tous les faits et gestes du locataire de la Maison-Blanche. Orban a même pris le parti de Donald Trump après le virulent échange entre le président américain et Volodymyr Zelensky. Comme son mentor américain, le premier ministre hongrois, qui a bâti un régime autoritaire et qui cultive sa proximité avec tous les autocrates, s'aligne de plus en plus sur la politique du Kremlin. Orban répète que l'Ukraine devrait capituler et il durcit son discours. Tous les jours, les médias pro-Orban répandent de fausses nouvelles sur l'Ukraine, accusant par exemple les services secrets de Kiev d'avoir financé des ONG hongroises qui critiquent le pouvoir à Budapest. Viktor Orban déplore l'attitude de ses alliés européens, qui selon lui veulent la guerre. Il menace le sommet européen de blocage. Persuadé que le succès est du côté de Donald Trump et qu'il pourra récolter des avantages en prenant le parti du président américain, Viktor Orban s'éloigne de plus en plus de la planète Europe. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Le monde est confronté à ses plus grands défis, affirme sur le réseau X Emmanuel Macron, qui s'adressera aux Français ce soir, allocution radio-télévisée à la veille du sommet européen crucial pour l'Ukraine et pour la défense européenne, à suivre sur RFI à partir de 20h. Le quoi qu'il en coûte à sa version allemande, l'Allemagne va débloquer des centaines de milliards d'euros pour renforcer son armée et relancer la croissance. Le pays se dirige vers un gouvernement de coalition dirigé par le conservateur Friedrich Merz. Partis conservateurs et sociaux-démocrates vont demander au Bundestag, la Chambre des députés, de pouvoir s'affranchir des règles constitutionnelles qui limitent le déficit budgétaire. Et puis après les armes, le renseignement, le directeur de la CIA affirme ce mercredi que les États-Unis suspendent leur soutien à l'Ukraine en matière d'espionnage. John Radcliffe, cité par les médias américains, dit espérer, je cite, que cette pause sera bientôt levée.
RFI, Radio France Internationale.
1h40, c'est la durée record du discours fleuve prononcé hier soir par Donald Trump au Congrès des États-Unis. Il a notamment affirmé devant les élus républicains exaltés et des démocrates consternés que son pays était sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu. Après l'entrée en vigueur de la hausse des droits imposés au Mexique et au Canada, le même Donald Trump a ouvert la voie d'un compromis. Le président est à l'écoute et finira par trouver une solution, a tenu à rassurer la secrétaire américaine au commerce. Si l'espoir d'un compromis a été bien accueilli ce matin par les bourses en Europe, les volte-face successives du président américain ne rassurent pas les marchés. C'est si vrai que l'euphorie qui avait suivi son élection est déjà retombée et que les valeurs boursières ont retrouvé leur niveau d'avant-élection. Nicolas Feldman a recueilli les explications de l'économiste Bruno Coleman, professeur d'université. Il est membre de l'Université libre de Belgique.
On est revenu à la case départ puisque aujourd'hui l'indice S&P, qui est un des grands indices boursiers, est en fait quasiment au niveau de l'élection de Trump, voire même un peu plus bas, ce qui veut dire qu'il y a eu effectivement une euphorie suivie maintenant par une contraction de la perception de confiance des Américains. Le fait de mettre des barrières tarifaires à l'importation, ça veut dire que tout ce que les Américains importent va coûter plus cher, et on sait que les Américains importent plus qu'ils n'exportent. Donc ça veut dire que le consommateur américain va payer plus cher sa consommation. Mais d'autre part, certains pays commencent à réagir, comme le Canada, peut-être demain le Mexique, et en fait, les exportateurs américains, notamment en matière agricole, vont être pénalisés par les mesures de rétorsion. Donc, il y a un effet combiné de barrières tarifaires et de perte de confiance dans l'économie intérieure du pays. Le mal est en train d'être fait parce que si 3 jours après avoir imposé de manière un peu martiale des droits, on commence à les réduire, et c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il y a de la versatilité, les marchés n'auront plus confiance.
L'Australie se prépare à l'arrivée d'un cyclone sur sa côte orientale dans des régions densément peuplées. Le cyclone Alfred devrait frapper vendredi matin le secteur de la ville de Brisbane, ce qui a déclenché des alertes d'urgence et conduit à la fermeture anticipée de centaines d'écoles. Au Japon, c'est le feu qui sévit. 1 mort, 4000 évacuations dans la région d'Iwate, dans le nord-est de l'archipel. Les autorités continuent de combattre le pire incendie de forêt au Japon depuis un demi-siècle, en espérant que la pluie qui a commencé à tomber soulagera leur tâche. 94 personnes, dont de nombreux enfants, avaient péri en mer, sans parler de tous les disparus. Un peu plus de 2 ans après le naufrage du Summer Love, le procès des responsables commence au tribunal de Crotone en Italie. L'audience préliminaire vise 6 personnes jugées pour négligence et homicide involontaire. Correspondance d'Anne Lenir.
Les faits remontent à la nuit du 25 au 26 février 2023. Un avion de Frontex repère un bateau au large de Crotone et le signale aux autorités italiennes. Mais ces dernières sous-évaluent l'avertissement et n'activent pas le plan de recherche et de sauvetage alors que la mer est très agitée. Sans doute par manque de transparence dans les échanges de communication entre les 4 officiers de la police des douanes et les 2 responsables de la garde côtière de permanence. À l'aube, des pêcheurs locaux découvrent la tragédie. La mer a commencé à rejeter sur la plage de Steccato di Cutro des corps d'enfants et d'adultes. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les secours s'activent. Trop tard pour 94 migrants et un nombre incalculable de disparus. Seules 80 personnes survivront au choc du bateau surchargé qui a heurté des rochers avant de se briser à quelques mètres des côtes de Cutro. Le procès devrait être déterminant pour répondre à la question suivante. Les migrants partis de Turquie auraient-ils pu être tous sauvés ? Anne Lenir, Rome, RFI.
Enfin, un mot de basket avec la NBA et son King, LeBron James, la star des Lakers, a de nouveau gravi un sommet hier soir. Il est devenu à 40 ans le premier basketteur de l'histoire à passer la barre symbolique des 50 000 points marqués dans la Ligue nord-américaine. Très bonne journée sur RFI. Elle continue avec Sur le pont des arts, votre émission. Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau et à tout à l'heure. Bientôt 16h10 à Paris.